7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Une suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
L'histoire mondiale ne s'écrit pas toujours là où on l'attendrait.
C'est vrai, par exemple aujourd'hui, une page importante de l'histoire de la Syrie va s'ouvrir dans un petit tribunal de province allemande. À Koblenz, au confluent du Rhin et de la Moselle, s'ouvre ce jeudi ce que le Tagesspiegel décrit comme le premier procès au monde de la torture en Syrie. Pour la première fois, deux anciens officiers aux ordres de Bachar al-Assad vont devoir répondre devant la justice allemande de crimes contre l'humanité. Alors pourquoi eux, pourquoi Koblenz et pourquoi la justice allemande? La radio publique Deutsche Welle répond à ces questions. D'abord parce que l'Allemagne a fait entrer dans son droit en 2002 le principe de compétence universelle, et puis aussi parce que le hasard des phénomènes migratoires a joué. Ce procès historique peut avoir lieu parce que parmi les dizaines de milliers de réfugiés syriens qui ont trouvé asile en Allemagne depuis 2011, il y avait beaucoup de victimes des exactions commises par le régime de Bachar al-Assad, également certains de leurs anciens tortionnaires incognito. C'est donc au détour d'une rue de Berlin, raconte le quotidien belge Le Soir, que l'avocat syrien, militant des droits de l'homme et lui-même victime de la torture en prison, Anwar Albouni, est un jour tombé par hasard sur un compatriote dont le visage lui rappelait confusément quelque chose. Vérification faite, ce visage, c'était celui d'Anwar Raslan, ancien chef de l'unité 251 des services de renseignement à Damas, chargé d'enquêter sur les fauteurs de troubles des manifestations anti-régime après 2011. Il gérait pour cela une prison où plus de 4000 hommes auraient été torturés, au moins 58 en seraient ressortis morts. Anwar Raslan, eh bien, c'est le principal des deux co-accusés de Koblenz aujourd'hui.
Et dans le dossier d'accusation des deux hommes poursuivis à Koblenz, on trouve une série de photos particulièrement accablantes.
Mais vous vous en souvenez peut-être, en 2014, Le Monde avait pris connaissance des 55 000 clichés pris et sortis clandestinement de Syrie par un homme qui se faisait appeler César, photographe officiel de l'armée syrienne chargé de documenter la terreur exercée à l'échelle industrielle par Damas dans les premières années de la guerre. De 2011 à 2013, nous rappelle Der Tagesspiegel, César a donc vu et photographié des milliers de corps mutilés, exécutés et jetés dans des fosses communes. Ces images ont alerté Le Monde sur ce qui se passait réellement dans les geôles syriennes, mais jusque-là, rien n'avait pu être entrepris pour arrêter les responsables et exécutants de ces exactions et surtout les juger. C'est donc de cela qu'il s'agit, résume la Berliner Zeitung, avec le procès de Koblenz qui débute aujourd'hui, contesté par la justice l'impunité de ces crimes de guerre, ouvrir la voie à d'autres poursuites internationales, cette fois on l'espère non plus contre des exécutants de basse besogne, comme Le Soir désigne Anwar Raslan, mais bien contre les vrais commanditaires de cet archipel de la torture syrien. Le Rheinische Post ajoute d'ailleurs que d'autres procédures similaires sont lancées, en France notamment, contre d'anciens officiers syriens. Mais le procès de Koblenz restera comme le premier. Il doit durer jusqu'au mois d'août.
Et puis au Mexique, enfin Camille, le président López Obrador semble avoir plus peur de la crise pétrolière que de l'épidémie de Covid-19.
Il aura en tout cas fallu, note El Universal, que le prix du baril de pétrole, dont l'économie mexicaine est si dépendante, plonge à des cours négatifs en début de semaine pour qu'Andrés Manuel López Obrador sorte de cette apparente bonhomie désinvolte qu'il caractérisait depuis le début de la crise sanitaire, laquelle, soit dit en passant, a fait pour le moment près de 1000 morts et 10 500 contaminés au Mexique. AMLO, pour le désigner par l'acronyme et surnom, qui est celui du président de gauche, a pris les choses en main ce mercredi. Annoncé pour 24 milliards d'euros de mesures économiques pour atténuer les effets combinés donc de la mise à l'arrêt forcée de l'économie mexicaine par le coronavirus et la chute des cours du brut. La Jornada détaille ce plan d'urgence, centré autour de 11 mesures d'austérité pour les services de l'État, la réduction du train de vie des administrations. Les hauts fonctionnaires mexicains, par exemple, vont voir leur prime de Noël supprimée et leur traitement réduit de 25% cette année, mais aussi le maintien des programmes sociaux et du montant des retraites, maintient aussi également des grands chantiers comme la construction d'un aéroport ou encore d'une raffinerie, comme quoi le monde d'après au Mexique n'a pas l'air de devoir être particulièrement frugal en hydrocarbures. Et c'est bien là le souci, enchaîne l'édito d'El Universal aujourd'hui. Tout reste centré sur l'économie du pétrole et pas sur les économies de pétrole. Le Mexique s'entête dans son ultra-dépendance à la manne pétrolière. Construire une nouvelle raffinerie alors que les cours s'effondrent, est-ce que c'est vraiment la bonne idée du moment ? Cette manière de foncer tête baissée dans une impasse, conclut Benito Nassif dans son billet toujours pour El Universal, elle fait parfaitement écho à l'entêtement qui, selon lui, caractérise le président mexicain. Lui qui multipliait encore ces derniers jours les voyages à travers le pays et les bains de foule avec poignée de main à volonté, agit depuis le début de la crise comme un joueur compulsif. AMLO voit qu'il est en train de perdre gros, mais sa seule réponse, c'est de doubler la mise.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.